Chapitre 15. Kanloum. Lorsque l'âne retourna dans les terres où il allait mourir, ainsi qu'il le savait de toute éternité, l'air du camp d'or avait le piquant caractéristique du début de printemps dans les régions septentrionales. Alors que la saison du renouveau était déjà bien installée dans les contrées méridionales, les arbres, ici, arboraient à peine leurs premiers bourgeons, et de timides fleurs sauvages montraient à peine le bout de leur nez dans les étendues d'herbes jaunies par l'hiver, où s'attardaient encore, dans les endroits ombragés, des plaques de verglas ou de neige. Alors que le soleil ne parvenait pas vraiment à réchauffer l'atmosphère, le ciel plombé augurait d'une averse imminente, et un vent glacial transperçait la cape et la veste de l'âne. Le sud l'avait-il ramolli à ce point? Si c'était le cas, quelle honte! Au moins, il était presque arrivé chez lui. Presque, oui. Piétiné par le passage de centaines de générations, la piste était aussi dure que la roche des collines environnantes. Du coup, il s'en élevait très peu de poussière, malgré l'intensité du trafic. Alors que les chariots des paysans tirés par des bœufs sortaient de Kanloum, après de fructueux passages sur les marchés du matin, des caravanes de marchands, escortées par des gardes casqués et vêtues d'une armure dépareillée, se dirigeaient vers le haut mur d'enceinte gris de la ville. Même si les chaînes d'or de la guilde des marchands de Kandor pendaient à quelques coups, sans parler des clochettes d'argent dans les cheveux des Araféliens, ni de quelques bijoux plus clinquants que les autres, la mise des chevaliers du négoce était aussi neutre et aussi discrète que leur comportement. Un commerçant qui exhibait sa bonne santé financière avait du mal à imposer ses prix, tout le monde savait ça. Les paysans, eux, ne faisaient pas mystère de leur prospérité quand ils venaient en ville. De riches broderies rehaussaient les vêtements des hommes comme des femmes, ces dernières n'hésitant pas à porter dans les cheveux des rubans de couleur ou à agrémenter leurs capes d'un col de fourrure. À coup sûr, ces gens étaient sur leur 31 en prévision des fêtes et des bals de Beltine. Cette allégresse ne les rendait pas moins méfiants avec les étrangers, cependant. Les gardes aussi paraissaient particulièrement nerveux. Une tension palpable régnait au camp d'or, et peut-être même dans toutes les terres frontalières. Les hors-la-loi poussaient comme de la mauvaise herbe cette année, et la flétrissure se montrait plus menaçante et plus nuisible que d'habitude. On colportait même des rumeurs sur un homme capable de canaliser le pouvoir de l'unique. Mais ça, c'était un grand classique. Alors qu'il guidait Félin Dansant sur la route de Kanloum, l'âne n'accorda aucune attention au regard que Boukama et lui s'attiraient régulièrement. Dans le même ordre d'idées, il ignorait la morosité coutumière de son compagnon. Alors qu'il avait vanté les mérites du repos, Boukama, durant tout leur séjour dans le sud, n'avait fait que râler et tempêter. Aujourd'hui, il déchaînait son courroux sur le maudit caillou qui faisait boiter son cheval et le contraignait à marcher à pied, l'animal tenu par la bride. Deux grands types qui avançaient devant leur monture et un cheval de bât attiraient immanquablement l'attention, surtout quand ils portaient des habits de voyage usés jusqu'à la corde et couverts de poussière. En revanche, toute leur sellerie, comme leurs armes, était parfaitement entretenue. Un jeune homme et un vétéran, leurs longs cheveux tenus par le hadori qui leur saignait le front. La lanière de cuir attirait particulièrement les regards, surtout ici, dans les terres frontalières, où beaucoup de gens savaient de quoi il s'agissait.
« Tas de crétins !» marmonna Boukama. « Ils nous prennent pour des bandits ? Des voleurs de grand chemin qui vont tenter de les détrousser à midi, au beau milieu de la grande route ?»
Fulminant toujours, Boukama ajusta la position de l'épée qui lui battait le flanc, un geste délibérément menaçant qui inquiéta une bonne demi-douzaine de gardes du corps de marchands et incita un gros fermier à faire décrire un écart à ses bœufs pour passer le plus loin possible de ces deux ruffians. L'âne ne desserra pas les dents. Les Malkieris qui portaient encore un hadori avaient mauvaise réputation, mais pas parce qu'on les suspectait de banditisme. Rappeler ce fait à Boukama aurait encore aggravé sa mauvaise humeur. Changeant de sujet, il se lamentait sur la médiocre qualité du repas et de la chambre qui les attendait le soir. Cet homme n'espérait rien. Il n'était jamais déçu quand le pire advenait. Malgré la très longue distance parcourue, l'âne ne se souciait pas des problèmes d'intendance. Alors que son regard se portait d'instinct vers le nord, il avait une conscience aiguë de son environnement. Captant tous les regards suspicieux, il entendait le crissement des harnais, le grincement des selles, le roulement des sabots et le bruit semblable à celui d'une vague que produisait une bâche de chariot mal fixée. Le moindre son anormal l'alerterait. Oui. Il restait sur ses gardes, mais la flétrissure l'obsédait quand même. Elle s'étendait à des lieues d'ici, pourtant il la sentait, comme si sa souillure infâme s'attaquait déjà à son âme. Un tour de son imagination? Sans doute, mais pas seulement. Il avait senti l'attraction de la flétrissure dans le sud, au Kairien, en Andorre et même à Théar, à 500 lieues de distance. Après 2 ans passés loin des terres frontalières, alors qu'il avait abandonné sa guerre personnelle pour en livrer une autre, l'attraction devenait chaque jour un peu plus forte. Il n'aurait jamais dû se laisser convaincre par Bukama de traîner dans le sud, une oisiveté qui l'avait affaibli. Tant qu'ils étaient là, les Aiel l'avaient aidé à rester vigilant. Pour la plupart des hommes, la flétrissure était un synonyme du mot « mort ». La faucheuse et les ténèbres, dans une terre pourrissante, souillée par le souffle méphitique du ténébreux. Tout pouvait s'y révéler mortel. La moindre piqûre d'insecte, une égratignure infligée par la ronce qu'il ne fallait pas, un contact trop prolongé avec une feuille qui ressemblait pourtant à toutes les autres, sans parler des trollocs, des myrdraal et de créatures encore pires. 2 coups de pile ou face avaient décidé de l'endroit où tout recommencerait. 4 pays jouxtaient la flétrissure, mais la guerre de l'âne n'avait pas de frontières, faisant rage des bords de l'océan d'Arit au contrefort de la colonne vertébrale du monde. Au fond, qu'importait le lieu où on rencontrait la mort? Oui, l'âne était presque de retour chez lui, dans la flétrissure, d'où il s'était absenté pendant bien trop longtemps. Des douves asséchées, larges de 150 pieds et profondes de 30, entouraient le mur d'enceinte de Kanloum. 5 ponts de pierre donnaient accès à la cité, chacun défendu à chaque extrémité par un poste de garde aussi haut que les tours, qui se dressait à intervalles réguliers sur l'entier périmètre du mur d'enceinte. Les raids de Trolloc orchestrés par des myrdraal s'enfonçaient souvent au-delà de Kanloum, semant la terreur dans une bonne moitié du camp d'or. Mais la cité, elle, n'était jamais tombée. L'étendard aux serres rouges battait au vent au sommet de chaque tour. Le seigneur Varan, haute chaire de la maison Markaziev, était réputé pour sa fierté. À Tchatchin, la capitale, la reine Éthéniel en personne n'exhibait pas autant de drapeaux à sa gloire. Arborant le casque à ramures de Varan, un cerf rouge ornant leur poitrine, les sentinelles du poste de garde extérieur regardaient à l'intérieur des chariots avant de les autoriser à s'engager sur le pont. De temps en temps, ces soldats faisaient signe à un voyageur d'abaisser complètement sa capuche. Il n'avait jamais besoin d'insister, car la loi, dans toutes les terres frontalières, interdisait qu'on se dissimule le visage dans les environs et à l'intérieur des villes et des villages. Quel inconscient aurait voulu être pris pour un sans-yeux qui tentait de s'y introduire? Des regards acérés suivirent l'âne et Bukama, tandis qu'ils traversaient le pont. Si leur visage était clairement visible, leur adori ne l'était pas moins. Personne ne parut les reconnaître cependant. Dans les terres frontalières, 2 ans étaient une petite éternité. Tant d'hommes pouvaient mourir en un tel laps de temps. L'âne remarqua que Bukama ne marmonnait plus. Un très mauvais signe.
Du calme, mon ami. Je ne déclenche jamais les hostilités,
riposta le vétéran, la main sur le pommeau de son épée. Les sentinelles du second poste, campés au-dessus de la herse, et les hommes en faction sur le pont, étaient plus légèrement équipés que leurs camarades, mais tout aussi vigilants. Surtout quand ils voyaient approcher 2 Malkyries aux cheveux longs tenus en arrière par un Adori. Bukama se rembrunissait à chaque pas.
Allan Mandragoran! Que la lumière nous protège! On te disait mort devant les murs scintillants, face à une horde d'Aiel!
Plus grand que ses frères d'armes, en fait pas loin de la taille de l'âne, l'homme qui venait de parler devait avoir 1 an ou 2 de moins que le protégé de Bukama. Pourtant, l'écart semblait de 10 bonnes années, au bas mot. Le soldat s'inclina, la main gauche posée sur le genou.
Taïchar Malkier, je suis prêt, Majesté.
Le vrai sang du Malkier.
Je ne suis pas un roi, dit l'âne.
De toute façon, le Malkier était mort. Seule la guerre vivait encore, dans son cœur en tout cas. Bien entendu, Bukama perdit son calme.
Tu es prêt à quoi, gamin?
Explosa-t-il. Du plat de sa main nue, il tapa sur le plastron du garde, juste à l'endroit du cerf rouge, le faisant reculer d'un pas.
Tu te coupes les cheveux très courts, et tu ne portes pas le Adori. N'as-tu pas juré allégeance à un seigneur du Candor? De quel droit prétends-tu être un Malkyrie?
Tandis qu'il cherchait une réponse, le jeune homme s'empourpra dangereusement. 2 gardes se dirigèrent vers les 2 fauteurs de trouble, mais s'immobilisèrent quand l'âne lâcha la bride de son cheval. Ce n'était pas grand-chose, mais ils savaient à qui ils avaient affaire désormais. Et les talons ne les rassuraient pas non plus. Un destrier était à lui seul une arme dévastatrice, et il ne pouvait pas savoir que celui-là était à moitié formé. Et les visiteurs qui avaient déjà franchi la herse avancèrent encore un peu, puis se retournèrent pour assister au spectacle sans prendre de risques. Les hommes et les femmes encore sur le pont reculèrent prudemment. Des cris montèrent, demandant pourquoi le trafic s'interrompait. Bukama ignora superbement la foule. Les yeux rivés sur le jeune garde, il n'avait pas lâché la bride du cheval de bas, ni celle de son hongre rouant. Il restait donc une petite chance d'éviter un massacre. Un officier sortit du second poste de garde, son casque à ramure sous le bras, mais sa main droite gantelée reposant sur la poignée de son épée. Costaud, le visage couturé de cicatrices, Alin Sokara, un vétéran s'il en était, servait depuis près de 40 ans à proximité de la flétrissure. Si blasé qu'il fût, il sursauta en reconnaissant Lan, sans doute parce qu'il avait lui aussi entendu parler de sa mort devant Tarvalon.
« Que la lumière brille sur toi, Seigneur Mandragoran, le fils d'Elleana et Alakir. Que leur mémoire soit honorée, et toujours le bienvenu. »
Sokara gratifia Bukama d'un regard qui n'avait rien d'amical. Puis il se campa sous la herse, juste au milieu du chemin. 5 cavaliers auraient pu le dépasser de chaque côté, mais il donnait l'image d'un obstacle vivant, et c'était ainsi qu'il fallait le considérer. Les autres soldats ne bougèrent pas, mais tous posèrent la main sur la poignée de leur épée. Tous, sauf le jeune homme qui défiait toujours Bukama du regard.
« Le seigneur Markasiev nous a ordonné d'être extrêmement vigilants, » continua Sokara, à moitié comme s'il voulait s'excuser, mais à moitié seulement. « La ville est sur les dents. Il y a déjà ces histoires au sujet d'un homme capable de canaliser le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Ces derniers mois, des gens ont été assassinés dans les rues, parfois en plein jour, et des incidents troublants se sont multipliés. On murmure que des créatures de ténèbres rôdent entre nos murs. »
Lan hocha la tête d'un air entendu. La flétrissure étant toute proche, les gens parlaient de créatures de ténèbres dès qu'ils étaient à court d'explications pour un événement imprévu comme une mort soudaine ou des récoltes désastreuses. Cela dit, Lan ne reprit pourtant pas la bride de félin dansant.
« Nous désirons prendre un peu de repos ici, avant de continuer vers le nord. »
Se reposer et se remobiliser aussi. Sokara parut surpris, ce qui n'augurait rien de bon. Espérait-il un appel vibrant au calme ou des excuses pour le comportement de Bukama? Les deux options auraient humilié le vétéran et, si la guerre devait s'arrêter là, quelle poisse! Lan n'avait aucune envie de périr en étripant des Kandoriens. Son vieil ami se détourna du jeune garde tremblant de colère.
« Il n'est pas d'autre faute que la mienne !»
dit Bukama d'une voix très ferme.
« Ce que j'ai fait est inexcusable. Au nom de ma mère, je jure de ne pas troubler la paix du seigneur Markasiev. Toujours en son nom, je promets de ne pas dégainer ma lame entre les murs de Kanloum. »
Sokara en resta bouche bée, et Lan lui-même eut du mal à cacher sa stupéfaction. Après une brève hésitation, le vieil officier s'écarta, s'inclina, toucha le pommeau de son épée, puis se plaqua la main sur le cœur.
« Nous accueillons toujours avec plaisir Daishan Lan Mandragoran et Bukama Marenellin, le héros de Salmarna. Puissiez-vous trouver un jour la paix tous les deux ?»« Elle nous attend entre les bras de notre mère la terre, » répondit Lan en rendant le salut rituel à l'officier. « Eh bien, prions pour qu'elle nous accueille un jour, » conclut Sokara.
Personne ne se languissait vraiment du tombeau, mais, dans les terres frontalières, la paix n'existait nulle part ailleurs. Le visage de marbre, Bukama avança, entraînant avec lui le cheval de bas et son hongre. Il n'avait pas attendu Lan, une critiquable entorse au protocole. Ville de pierre et de briques, Kanloum, bâtie sur des collines, était dotée de rues pavées, pentues et sinueuses. Même si l'attaque des Aiel n'avait jamais visé les terres frontalières, les conflits armés avaient toujours un effet désastreux sur le commerce, y compris à des dizaines de lieues de distance. La guerre et l'hiver étant terminés, des visiteurs venus de tous les pays avaient envahi la ville. Bien que la flétrissure fût quasiment à ses portes, Kanloum connaissait la prospérité grâce aux gisements de pierres précieuses des collines environnantes. Plus bizarrement, la cité comptait parmi ses habitants les meilleurs horlogers du monde. Même à distance des diverses places du marché en terrasse, les cris des colporteurs et des commerçants arrivaient aux oreilles des deux guerriers. À chaque intersection, des musiciens, des jongleurs ou des acrobates à la tenue multicolore exécutaient leurs numéros. Quelques carrosses en bois laqué se frayaient un chemin au milieu de la foule, des chariots et des charrettes. Des cavaliers en habits de velours bordés de fourrure paradaient sur des chevaux équipés d'une selle incrustée d'or ou d'argent, et de rennes portant en incrustation les armes de leur maître. Dans cette cohue, il ne restait plus 3 pieds carrés d'espace libre. Lan aperçut plusieurs Aes Sedai au visage sans âge impassible. Beaucoup de gens étant à même de les identifier, la foule refluait autour d'elle comme une marée. L'expression d'un profond respect? D'une prudence de bon aloi? Face à une Aes Sedai, un roi lui-même avait d'excellentes raisons de rester en retrait. Dans des temps pas si anciens, on pouvait sillonner les terres frontalières une année durant, sans apercevoir l'ombre d'une Aes Sedai. Depuis l'avènement de leur nouvelle chère Damirline, les sœurs grouillaient partout. Peut-être à cause des rumeurs sur un homme capable de canaliser le pouvoir. S'il existait, elle ne le laisserait sûrement pas longtemps en liberté. Lan évita de regarder les Aes Sedai, et il les dépassa le plus rapidement possible afin qu'elles ne le remarquent pas. Si l'une d'elles était en quête d'un champion, le Hadori aurait pu suffire à éveiller son intérêt. En principe, elle demandait l'accord d'un homme avant d'établir le lien. Mais tous les champions qu'il connaissait avouaient avoir été pris par surprise. Quel homme aurait eu envie de devenir le toutou d'une Aes Sedai, s'il avait vraiment pu exercer son libre arbitre? Si incroyable que ça paraisse, beaucoup de femmes portaient une voilette. Assez fine pour laisser voir leurs yeux, cependant. De plus, on n'avait jamais entendu parler d'un Myrdraal du beau sexe. Cela dit, il semblait inconvenant que la loi cède face à la mode. À ce rythme-là, on supprimerait bientôt les lampes, histoire qu'il fasse bien nuit dans les rues. À la grande surprise de Lan, Bukama regarda plusieurs de ses femmes voilées et ne se lança pas dans une de ses diatribes favorites. Lorsqu'un homme au nez protubérant nommé Nadzar Kurenin le croisa, Bukama ne fronça même pas les sourcils. Si le jeune garde impétueux était né longtemps avant que la flétrissure eût dévasté le Malkier, Kurenin, avec ses cheveux coupés courts et sa barbe pointue, avait au minimum deux fois l'âge de Lan. Et les années n'avaient pas totalement effacé la marque de son Hadori. Il y avait beaucoup d'hommes comme lui, et sa seule vue aurait dû mettre Bukama hors de lui. Qu'arrivait-il donc au farouche vétéran? De colline en colline, les deux compagnons approchaient régulièrement du cœur de la ville bâtie sur la plus haute butte, le perchoir du cerf. Au sommet se dressait le palais citadel du seigneur Markasiev, dominant les demeures en terrasse des nobles de moindre importance. Toutes les demeures ici accueilleraient chaleureusement Allan Mandragoran. Peut-être même trop chaleureusement, dans son état d'esprit actuel. Des bals et des chasses, avec de nobles invités venus de 10 lieues à la ronde, certains ayant même fait le voyage depuis la Raphaël. Des curieux avides de l'entendre narrer ses aventures. De jeunes coqs prétendant se joindre à ses expéditions dans la flétrissure. Et des vieillards désireux de comparer leurs exploits là-bas avec les siens. Des femmes rêvant de partager la couche d'un homme que la flétrissure, selon d'absurdes légendes, n'était pas en mesure de tuer. Parfois, le Candor et la Raphaël ne valaient guère mieux que les pires contrées du Sud. Parmi ces femmes, toutes n'étaient pas célibataires. Il y aurait aussi des renégats comme Kurenin, résolus à enfouir à jamais dans l'oubli la gloire perdue du Malkier, et des femmes qui ne se peignaient plus sur le front le Kisein, cet ornement qui les engageait à élever leur fils afin qu'ils combattent les ténèbres, jusqu'à leur dernier souffle. Comment ignorer les sourires hypocrites de ces gens quand ils l'appelaient Daishan al-Lan, seigneur de guerre au diadème et roi sans couronne du Malkier? Le souverain d'un royaume trahi alors qu'il était encore dans son berceau. Si on considérait son humeur actuelle, Bukama pouvait faire un massacre. Bien sûr, il avait juré de ne pas dégainer sa lame entre les murs de Kanloum. Mais ses mains et ses pieds étaient assez dangereux pour prendre la vie d'un homme.
Varan Markasiev nous accablerait d'une bonne semaine de festivités et de banquets, dit soudain Lan, en s'engageant dans une rue étroite qui s'éloignait du perchoir. Avec ce que nous avons entendu dire au sujet des bandits et des autres ennuis, il ne se lamentera sûrement pas si je m'abstiens de lui rendre une visite de politesse.
Une fine analyse. Lan n'avait rencontré l'homme qu'une fois, des années plus tôt, et il gardait de lui le souvenir d'un dirigeant qui se consacrait entièrement à son devoir. S'il le fallait, Markasiev organiserait les bals et les fêtes, mais il le ferait à contre-cœur. Bukama suivit le mouvement, sans râler parce qu'on le privait d'une série de festins et du confort d'un lit à baldaquin. C'était vraiment inquiétant. Non content de recouvrer tout son tranchant, Lan allait devoir secouer son vieux compagnon. Sinon, il pouvait tout aussi bien s'ouvrir les veines sur le champ.